Là, faites-vous en pas, j'ai fini de préparer mon message, là. Sinon, je pense que j'aurai un peu de misère pour cet après-midi. On va lire les versets 1 à 14. Le trésor de la foi enfantine. Vous allez voir, c'est le fil conducteur qu'on voit à travers ces versets qu'on lit ensemble. Donc, on est dans Matthieu 18 et on commence au verset 1 jusqu'à 14. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Demain, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Le trésor de la foi enfantine. Juste situer un peu le contexte plus large de ce qu'on vient de lire. Dans le contexte, vraiment, Matthieu nous place un contraste entre deux visions opposées. Et le chapitre nous ouvre sur l'idée de la grandeur. Hein? À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus en disant « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Mais ce n'était pas étranger à ce qui avait été dit avant. Jésus avait parlé auparavant on l'avait vu faire des miracles et tout ça, puis les autres, bon, il n'avait pas été capable de faire ces miracles-là. Mais surtout au verset 22 et 23, Jésus parle de sa mort et sa résurrection. Rappelez-vous, des fois que Jésus parle de sa mort en l'annonçant, il annonce en même temps sa résurrection. Mais pour les disciples, il y avait une incompréhension profonde. C'est-à-dire que pour eux, la croix, ça ne marchait pas, ça ne se pouvait pas, ça ne se pouvait pas avec la grandeur du Messie qui attendait, qui meurt honteusement de même. Leur vision de la grandeur de Dieu, du Messie qui devait venir, était totalement incompatible avec une mort honteuse comme la croix. Et on peut les comprendre. C'est-à-dire, si on s'attend que ce soit un Messie qui est un chef, qui libère, qui... Ben, comment ça qu'il irait comme ça sur une croix? Parce que la croix, c'était vraiment la façon la plus... honteuse, publique, d'être exécutée comme ça. Mais j'aimerais rappeler qu'à toutes les fois, il ignorait la fin de la phrase. Pas la fin du discours, la fin de la phrase même. Que le troisième jour, il allait ressusciter. Il l'a promis à maintes et maintes reprises et c'était aussi promis dans l'Ancien Testament. À cause de ça, il voyait juste un côté de la médaille. Il voyait juste le côté humain du règne de Jésus. Et donc, il y avait un choc des idées, un choc des visions spirituelles entre le concept qu'eux avaient de la grandeur, qui était politique et sociale, donc un Messie grand, OK, versus celle de Jésus-Christ, qui est une grandeur spirituelle, qui est une grandeur qui vient de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il emploie l'image ici du petit-enfant. Parce qu'on dit, ben, un petit enfant, puis surtout à l'époque, les gens ne se faisaient pas. Beaucoup dans des cultures, pour avoir parlé à des gens de cultures différentes, les enfants n'en fait pas bien des cas. Ici, c'est plutôt exceptionnel, historiquement et même actuellement sur la planète. Je veux dire, ici, on fait des enfants des idoles, des rois. Mais culturellement, dans la majorité des cultures, puis historiquement, ça n'a jamais été le cas. Là. Un enfant, c'était, tu sais... Même, je pense qu'en anglais, ils disent un enfant qui est vu, mais pas entendu. Ah, c'est ça. Un enfant doit être vu et non entendu. Tiens, en voulant dire, c'est ça. Je veux dire, un enfant, ça prend pas toute la place. T'sais. Donc, c'est ça le concept. Et Jésus prend un enfant comme ça, puis il le montre comme un modèle de grandeur. Voyez-vous comment il y a de l'incompatibilité là, entre les deux visions? Je suis réussi à faire comprendre un peu ce que je veux communiquer là. Mais juste pour poursuivre ici en guise d'introduction, le secret de la bonne façon de comprendre ici, c'est de voir le trésor de la foi enfantine. Jésus montrait quelque chose qu'un enfant a qui est d'une grande valeur devant Dieu. Qu'on ne voit pas nécessairement au niveau politique ou au niveau social, mais les enfants ont quelque chose d'une valeur éternelle. OK, juste en introduction, là... Un enfant est fondamentalement imparfait, il a besoin d'instruction, de correction pour pouvoir grandir. Un enfant est totalement dépendant, il est très inachevé. En fait, on l'est tous, là, mais un enfant l'est fondamentalement. Un enfant, c'est simple. Il y a une espèce de liberté naturelle qui est reliée à l'enfant. C'est pas compliqué, la vie d'un enfant. Hein? Tu sais, il y a cette simplicité-là à la vie d'un enfant. Tu sais, donnez-y de quoi pour jouer. Même en Afrique, on a vu ça avec l'orphelinat, les enfants prennent une bouteille, ils prennent un couvercle de plastique, puis ils se font un... Vous regarderez, il y a un petit gars là, qui a une espèce de machine, il pousse ça avec un bâton, là. Ça a l'air de fun en fait. Là. Il a pris ça avec ce que nous on prendrait dans la poubelle, puis... Fait que, tu sais, l'imperfection, la simplicité, puis la soumission. C'est-à-dire, un enfant naturellement est malléable et docile. C'est pour ça que souvent, il y en a qui abusent des enfants. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les enfants n'ont pas de nature pécheresse, là. OK? Tout le monde dit qu'ils sont parents. Vous savez que les enfants ne sont pas naturellement soumis dans le sens absolu que, un enfant, ça fait absolument tout. Mais un enfant est beaucoup moins résistant qu'un adulte. OK? C'est pour ça que c'est plus facile si on voudrait abuser d'un enfant. Donc, en fait, si on s'humilie, on peut comprendre, c'est seulement en s'humiliant qu'on peut comprendre le trésor de la foi enfantine. Notre orgueil nous empêche de voir comment c'est précieux, parce qu'on pense qu'on sait mieux. Mais c'est en s'humiliant qu'on voit comment c'est un trésor, que cette foi enfantine est d'un grand prix devant Dieu. En fait, c'est l'idéal de la grandeur selon Dieu. Écoutez, deux béatitudes à ce sujet-là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. N'est-ce pas cette idée de imperfection, simplicité, soumission qui est communiquée là, et c'est précédé du mot « heureux ». Mais juste si pour être bien clair, ok, pour pas que personne se pète les bretelles, aucun d'entre nous dans notre nature pécheresse, et surtout en tant qu'adulte, n'a ça de façon naturelle, d'avoir cette foi enfantine. Ça doit être le fruit de la conviction du Saint-Esprit dans nos vies qui nous amène, comme au verset 3, hein, à avoir cette simplicité d'un enfant, se convertir pour devenir comme un petit enfant. Donc, on va regarder ça ensemble, simplement cet après-midi, avec trois éléments du trésor de la foi enfantine. C'est facile, c'est 3 V. Le premier, c'est le virage de la foi enfantine. Le virage de la foi enfantine. On a vu dans verset 1 à 6 que, puis je viens de le lire, hein, Jésus emploie une expression « si vous ne vous convertissez ». Bon, de quoi il est question ici? Jésus emploie le langage de la conversion. OK? Certainement, c'est vrai au niveau du salut. Je veux dire, pour être sauvé, c'est quoi? Tu vas simplement à Dieu, sans rien, comme un enfant, dépourvu, t'es perdu, t'as besoin d'être sauvé. OK? Fait que certainement, on peut comprendre ce verset-là, conversion, que ça peut avoir vraiment rapport au salut, à la conversion du salut. Mais je crois qu'il y a plus quand on regarde le contexte un peu plus large. Par exemple, au verset 4, Jésus il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je pense qu'on voit là, parce que Jésus parlait aux apôtres. Puis quand on comprend la pensée de l'époque, puis comme je le dis aussi, la pensée actuelle, il y a cette idée, OK, qu'on peut avoir de la grandeur, si tu veux être quelqu'un de grand, ben tu sais, certainement tu veux pas aspirer à être comme un enfant. Je veux dire, c'est bien la dernière affaire que tu veux si tu veux être grand. OK? Parce que c'est là que toute la discussion est partie, hein? C'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Donc je pense que ça va au-delà du moment de la conversion. Ça implique ça, mais ça va au-delà. Parce que Jésus dit, vous devenez comme des petits enfants, et c'est vous. Celui qui se rendra humble. Je pense que c'est des références ici à un état d'être, à ce qui nous caractérise moralement, la disposition de notre cœur, si vous voulez. Okay? Je pense que c'est de ça qu'il est question ici, que c'est Jésus parle pour quelque chose qui est après la conversion, qui nous concerne tous. Puis encore plus dans ce sens-là, regardez au verset 5, ça dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Donc c'est non seulement une disposition intérieure pour nous, mais c'est aussi une disposition par rapport aux autres. Est-ce que je reçois des gens de même? Est-ce que je méprise des gens de même qui ont cette simplicité? Je les regarde de haut, c'est des simplets, OK? C'est ça ici que je pense que Jésus est en train de cerner. Il parle de la vraie grandeur, puis qu'est-ce qui en consiste? C'est clair que tant au niveau personnel que relationnel, on a besoin du virage de la foi enfantine. On a besoin de se repentir de cette autosuffisance que nous avons, de cette confiance en nous-mêmes que nous avons, et d'être enclin à avoir ce caractère fondamental qui, savez-vous quoi? Oui, était en Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme un enfant, Jésus n'était pas-il soumis à son Père en toutes choses? Lui, Dieu le Fils, soumis en toutes choses à son Père. Est-ce que Jésus était mature? Parfaitement mature. Donc, ce n'est pas l'idée ici d'être enfantin, mais c'est l'idée d'avoir, tu sais, Jésus, puis, ou d'être un simplet. Jésus n'était rien de ça. C'est une disposition face à la volonté de Dieu. OK? Un exemple de ça, ben en fait, dans Matthieu, juste tourner, moi j'ai eu besoin de tourner une page, là, une page ou deux dans le chapitre 20. L'abbé s'explique par l'abbé, ça va nous aider à comprendre ici ce qu'on voit au chapitre 20, verset 20 et verset suivant. Verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée, donc les fils de Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils, et c'est prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » C'est comme un persistant, cette idée-là, hein? Du royaume. C'est encore la même idée de grandeur, n'est-ce pas? OK, mais regardez ce qui suit, c'est instructif. Verset 22, « Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Écoutez bien, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. » Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets-là? C'est-à-dire que ce que nous, on pourrait associer un enfant à la petitesse ou okay, à pas grand-chose, Jésus l'associe à l'essence même de sa mission rédemptrice. Eux autres voulaient être le plus grand, toi Jésus, il dit, non, c'est le serviteur de tous, si tu te mets au plus bas, tu as le même esprit que moi dans lequel je viens dans ma mission rédemptrice, parce que je suis pas venu pour être le dominateur de tous, mais je suis venu pour donner ma vie en rançon pour servir. Wow! Ça nous donne, c'est quoi l'esprit derrière cette idée de l'enfant qui a mis au milieu d'eux autres. Puis alors que les autres étaient scandalisés d'entendre Jacques et Jean, avec leur mère, demander ça, Jésus fait de toute cette situation le dénominateur commun de l'histoire humaine. Vous savez que les grands, les tyrans, je veux dire, c'est la nature humaine, on voit ça dans les royaumes humains. Mais dans son royaume, c'est complètement l'inverse. Si on retourne au chapitre 18, non seulement c'est important ce qu'on voit là, mais ce l'est au point que si on va contre, si on empêche cette disposition enfantine, simple, c'est lourd de conséquences. Verset 6, chapitre 18, verset 6. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Quiconque empêche le virage de la foi enfantine, cette repentance, cette disposition à se détourner de vouloir être le plus grand, de vouloir être quelqu'un, et de simplement accepter de n'être rien, mais que Dieu soit tout. Si quelqu'un s'oppose à ça, il s'oppose à Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est lourd de conséquences. Il s'oppose à Dieu et au bienfaisant plan de son royaume. Dieu ne veut pas nous rendre misérables. Ah, tu vas être le plus misérable de la gang. Tout le monde va te piler dessus, puis ça va être vraiment plate pour toi. C'est pas ça. Christ est venu comme ça. Puis c'est comme ça que Dieu accomplit la rédemption de l'humanité. Puis si on veut que Dieu se serve de nous dans ses plans, dans son royaume, dans ce que lui veut faire, il faut qu'on prenne la même place parce que c'est le genre de personnes que Dieu utilise. C'est eux que Dieu prend dans son royaume. C'est vraiment profond ce qu'on voit là. Maintenant, je vais vous donner un avertissement parce qu'ici, il y en a un, hein, ici, au verset 6 qu'on a eu. Attention à qui que ce soit ou quoi que ce soit auquel on peut s'exposer comme influence parce que ça a des conséquences. Les gens qui nous influencent, les gens qui ont un impact sur notre vie, ça doit être des gens qui nous amènent à voir cette disposition. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est rare. Dans le monde dans lequel on vit, c'est l'inverse. Dans le monde, puis dans le monde chrétien. Cette disposition-là n'est pas naturelle. Puis elle n'est pas plus chez les chrétiens. Et je vous lis l'avertissement que Paul a donné aux Éphésiens dans le livre des Actes. Il dit qu'il va s'élever au milieu des autres des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et là, il exhorte donc les anciens à veiller en se souvenant durant trois années, il n'a cessé de les exhorter avec larmes, chacun d'eux. Et donc, des enseignements, des choses pernicieuses, trompeuses, littéralement tordues. Écoutez aussi ce que Pierre dit dans 2 Pierre au chapitre 3. Il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi fait connaître selon la sagesse qui lui a été donnée. » Donc Pierre réfère aux écrits de Paul, okay? aux épîtres pauliniens. Et il dit au verset 16, 2 Pierre 3, 16, « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Donc, si vous avez de la misère des fois à comprendre ce que Paul écrit, vous n'êtes pas tout seul, Pierre aussi avait de la misère. « Des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme les autres Écritures, pour leur propre ruine. » Bon passage par rapport à l'inspiration, parce qu'il réfère à Paul comme étant des Écritures. Donc, le Nouveau Testament authentifie le Nouveau Testament comme étant les Écritures. Mais bon, c'est pas ça mon sujet. C'est plus que, ici, il parle des gens qui corrompaient, qui tordaient le sens des Écritures. Puis ça nous dit aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il y a un sens dans lequel on doit garder l'Évangile pur et simple, tel qu'il est, la parole telle qu'elle est, et pas pour être simpliste puis tout ça, mais ce qui fait la grandeur de quelqu'un, c'est vraiment pas toutes les prouesses théologiques qu'il peut faire ou toute la connaissance qu'il peut étaler, mais la simple foi qu'il y a en Dieu, cette dépendance comme un petit enfant. Il y a un réel et très dangereux piège pour ceux qui ne prennent pas le virage de la foi enfantine, parce que ça les engage dans la voie de l'égarement des impies, encore là pour prendre le langage de Pierre dans 2 Pierre. Écoutez à ce sujet-là ce que Proverbe 1 dit. verset 5 et verset 8. « Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » N'est-ce pas la disposition d'un enfant? Un enfant n'a pas grand-chose à enseigner, il a tout à apprendre, à écouter. C'est aussi la disposition qu'on doit avoir. Si ceux sous lesquels nous nous plaçons pour avoir de l'instruction et de l'enseignement ne démontrent pas le fruit de la vie de Christ, ils vont être pour nous une occasion de chute, de scandale. Et ça n'a pas obligé d'être gros. Les petits compromis mènent à des grands désastres. Et même s'ils peuvent avoir de l'expertise et connaître beaucoup de choses, si on prend une simple foi en Dieu, tel qu'il se révèle dans sa parole, on doit vraiment s'en tenir loin. C'est dangereux. Parce que les gens qui nous influencent doivent nous édifier, bâtir notre foi, fortifier notre foi. Et si c'est pas ça, c'est dangereux. Et en passant, qu'est-ce que nous dit la Bible sur la connaissance versus l'amour? La connaissance enfle, mais l'amour édifie. J'aime bien être avec quelqu'un, puis les saints qui ont le plus béni mon cœur, souvent, ce n'étaient pas des gens qui étaient nécessairement des grandes connaissances. J'ai été béni par des gens qui avaient des grandes connaissances bibliques, mais des fois, des gens simples qui avaient un amour pour le Seigneur réel et authentique, je me sentais gros de même devant eux autres. Puis ils ne connaissaient pas grand-chose. Mais il y avait quelque chose de, qui vient à mon esprit, là, Madame T. La maman de... Pasteur Guébiche, sa femme, là, OK? Maxine, OK? Donc, Madame Guébiche, sa maman. Tu sais, c'est une madame, je ne sais pas si... Elle a peut-être un... Je sais pas si elle a sa 12e année, là. Mais tu sais, cette madame-là, premièrement, elle est née dans un pays communiste, en Pologne. Vous savez, la Pologne s'est fait passer des deux bords d'un gaz. La vie n'est pas facile en Pologne, là. Puis... Elle a élevé 7 enfants avec un mari abusif, alcoolique, qui finalement les a laissés tout là. Puis rajouter là-dedans, un des 7 est un handicapé. Vous avez connu Danny. Mais c'est la madame la plus joyeuse, la plus radieuse que je connaisse dans mon petit cercle de connaissances. Elle a quelque chose de tellement simple, un contentement. Là, je dis pas, hein, je veux dire, elle a des défauts, là, tu sais. Mais il y a quelque chose qui sort de sa vie, qui est vraiment précieux. Puis je ne sais pas si vous savez, mais c'est drôle, par-delà ça que la vie est capitale, la dernière fois qu'elle est venue à l'église, elle a fait pleurer toute l'église en chantant une chanson fausse avec sa fille qui ne savait pas vraiment jouer au piano. C'était pas grave. C'était la puissance de Dieu. Puis je ne sais pas si c'était la même fois, mais une fois, elle a fait pleurer toutes les madames dans une réunion de prière, juste en donnant son témoignage. Puis elle s'est rendue compte, ouais, pourquoi je me plains? Fait que tu sais, des fois, des gens de même... La connaissance ensemble, mais l'amour édifie. Amen. Et maintenant, je veux qu'on voit un deuxième élément. Non seulement le virage de la foi enfantine, on a besoin de se repentir, cultiver. Il y a quelque chose de précieux et de beau, de désirable là-dedans. Puis on doit fuir tout ce qui peut nous éloigner de ça parce que c'est pernicieux, c'est tordu. Ça peut paraître beau, mais ça ne l'est pas. Donc, le virage, mais aussi, ça nous amène au deuxième point, le vol de la foi infantine. Regardez les versets 7 à 9. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Ensuite, il continue avec le passage que vous connaissez sur enlever sa main, son pied ou son œil. Mais ça commence avec l'expression malheur. Si vous connaissez la Bible, vous savez que cette expression est chargée prophétiquement. C'est le langage des prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Quand on lit l'Apocalypse, qui a dit malheur, là, ça commence à chauffer pas mal. Vous avez lu l'Apocalypse dernièrement, mais quand ça dit les malheurs, ça va pas bien. Et Jésus lui-même l'a dit, dans les moments les plus solennels de son ministère, face aux gens les plus élevés de sa société. Il a dit ça, hein, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que ces gens-là rejetaient sa personne, son œuvre et sa parole. Donc, c'était grave. Quand ils disaient malheur dans Jean 23, dans Matthieu 23, on va voir ça plus tard, l'heure était grave. Et donc, ça nous démontre ici la gravité de ce dont il est question ici, qu'on considère quand il dit malheur à ce qui est un scandale. Voyez-vous comment c'est important le sujet dont on parle? Et c'est-à-dire que le vol de la foi infantile est, veut dire, ça, ça peut arriver par l'influence ou l'intervention du monde, mais aussi du monde chrétien. Comment est-ce que ce vol-là, comment est-ce ces scandales-là? Mais vous savez, dans le monde chrétien, il peut y avoir des scandales, on a des histoires de scandales. Il y en a même qui ont vécu de ces scandales-là et c'est des expériences traumatisantes. Mais aussi, il y a des gens qui sont en scandale. Il y a des pensées qui sont en scandale. Vous connaissez la pensée postmoderne? Vous en parlerez avec M. Gosselin, lui, il connaît pas mal ça, mais l'idée, c'est « oh, c'est relatif », puis on parlait de ça tantôt, « ta vérité, ma vérité ». Vous savez que c'est un non-sens? La vérité, c'est la vérité. C'est pas la mienne puis la tienne, c'est la vérité. C'est que toi, t'as reconnu ou t'as reconnu pas, mais je veux dire, c'est la vérité. C'est comme la réalité, je veux dire, ça va ensemble. D'ailleurs, la vérité, c'est la reconnaissance de la réalité. Ça va ensemble, les deux. Mais, cette pensée postmoderne, ça va contre cette foi enfantine, ça vole cette foi enfantine, ça nous vient du siècle des Lumières, de l'âge de la raison, qui met la raison au-dessus de la révélation. Tout le libéralisme allemand qui est venu aussi pour aller mettre tellement de doutes sur la parole de Dieu. Ah, ben là, les miroirs, Jéricho, parce qu'on a tellement son effort de la trompette, ça a fait une vibration sonore, puis ça l'a fait tomber les murs.
Ben oui.
Ben excuse, mais si c'est arrivé de même, c'est un miracle pareil, parce que tu essaieras de le refaire. Ou encore là, tu sais, ah ben non, la mer rouge, parce qu'il y avait juste 6 pouces d'épais d'eau, puis ah ben ça aussi, c'est un miracle, parce que tu feras noyer une armée entière dans 6 pouces d'épais d'eau, ça aussi c'est un miracle. Comprenez-vous, je veux dire? Mais c'est juste pour amener le point, si Dieu le dit, ça le règle. C'est ça la foi enfantine, c'est la simplicité. Il ne faut pas se laisser voler ça par les pensées de ce monde. Les pensées corrompues, tordues. Mais ici, j'ai une question. Pourquoi Jésus dit, il est nécessaire? Des fois, on se pose, pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il dit, regardez, on relit verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Pourquoi il dit il est nécessaire? Je pense qu'on a la parole dans la réponse dans la parole aussi. Dans Jean, dans 1 Jean au chapitre 2. Et écoutez verset 18 et 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et vous aviez appris que l'Antichrist vient et qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste qu'ils ne sont pas des nôtres. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait des scandales, pour que ça soit manifeste, ceux qui sont de Dieu, de son royaume, et ceux qui ne le sont pas. Pour ça, je vous dis, c'est quelque chose de sérieux dont on parle. Écoutez, je vais vous lire après, avant de vous dire que Dieu veut mettre au clair que ceux qui ne sont pas les siens vont être reconnus comme tels, versus ceux qui le sont, ceux qui sont de son royaume, ceux qui ne le sont pas. Et comparé à ça, toujours dans 1 Jean au chapitre 2, écoutez, versets 20 et 21, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Je vous écris non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu qui les enseigne dans les voies de Dieu. » Donc, cette erreur, cet esprit d'erreur, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Écoutez, dans le même sens, versets 26 et 27. « Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » OK? C'est dans le sujet qu'on a. « Pour vous, l'onction. » L'onction ici, dans 1 Jean, ça parle simplement du Saint-Esprit. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Autrement dit, on peut s'exposer à de l'enseignement, lire des livres, écouter des prédications, mais le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin qu'un humain nous enseigne, c'est le Saint-Esprit lui-même. Quand on a le Saint-Esprit, il nous enseigne, il dit ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est faux. C'est lui qui nous enseigne. OK? Maintenant, ça, c'est connaître Dieu par l'Esprit. Et c'est la seule façon de le connaître, d'ailleurs. C'est pour ça que le monde ne le connaît pas, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, parce qu'ils résistent à l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, c'est différent. Hein? Connaître Dieu et connaître des choses au sujet de Dieu, c'est pas pareil. Non. Tu peux connaître des choses au sujet de Dieu toute ta vie, mais sans jamais le connaître. Mm. Puis tu peux connaître Dieu, puis pas être, comme je disais, pas être le plus grand des théologiens, pas en connaître tant que ça, au sujet de Dieu, mais tu le connais vraiment. Puis ce que tu connais de lui, tu t'accroches, c'est ta vie, puis... Mm-hmm. OK? C'est deux choses très différentes. Maintenant, des versets, si on regarde dans Matthieu 18, versets 8 et 9, vous les connaissez, hein? On l'a déjà lu, là, le pied, la main, l'œil qu'on arrache, ils sont pour nous un sujet de scandale. Bon, allez pas faire ça, là. N'essayez pas ceci à la maison, là, parce qu'on aurait une belle église de manchots puis d'aveugles. Mais l'idée ici, ça réfère à notre état d'être, notre état d'esprit égocentrique. OK? L'idée, c'est que je veux me servir moi-même, OK? C'est tout, tu sais, avec tes pieds, avec tes mains, avec tes pieds, avec tes yeux, c'est « je veux pour moi, je vais aller là pour ça, pour moi, je vais prendre pour moi, mes yeux convoitent », comprenez-vous? C'est toute l'idée de recevoir, c'est l'opposé de Jésus qui est venu donner sa vie comme la rançon pour plusieurs, qui est serviteur, okay? C'est l'idée de vouloir être servi. C'est le langage de la convoitise, c'est pas le langage de l'amour sacrificiel. Et c'est ça que Jésus donne comme base du vol de la foi enfantine. Quand c'est ce qui nous anime, cet esprit de convoitise, de vouloir, de ne pas être content, ça tue cet état d'esprit que Dieu chérit tant. Et l'un des plus grands malheurs et dangers de passer à l'âge adulte, on perd quelque chose de précieux. Pas nécessairement, mais qu'on peut perdre. C'est la simplicité du contentement du caractère des enfants. C'est vrai, hein? Puis d'ailleurs, je reviens sur Mme T, là, j'ai de la suite dans les idées, mais je me rappelle une phrase qu'elle nous avait dit avec Danny. Moi, je ne sais pas c'est quoi élever un handicapé, mais ça ne doit quand même pas être évident. Là. C'est comme un enfant, mais c'est, tu sais, c'est pas comme un enfant aussi. Mais ce qu'elle avait dit, probablement, elle voit ça comme c'est Dieu qui a donné cet enfant-là, puis elle est contente de s'occuper de Danny, puis elle l'aime de tout son cœur. Puis elle dit, sais-tu quoi? J'apprends beaucoup avec Danny. Parce que Danny, là, il n'est pas compliqué. J'y mets le linge que je veux, il ne dit rien. J'ai dit, hey, Danny, on va à l'épicerie, il vient à l'épicerie. Il dit, Danny, reste assis dans ta chaise pendant que je fais ça, il reste. C'est pas compliqué avec Danny. Il est comme vraiment. Puis, waouh! Moi, quand elle a dit ça, je dis, wow! Il y a quelque chose qu'elle a compris que. Puis elle a dit, j'ai appris ça de Danny. Puis peut-être que ça va en voir, ça se peut-tu? Avec la discussion qu'elle a là. Est-ce que ça se peut que Dieu enseigne de même avec quelqu'un qu'on mépriserait tant, un handicapé mental? Est-ce que Danny est une erreur cosmique? Non. Danny est une créature merveilleuse que Dieu a faite à son image. Il n'y a pas tout exactement comme nous autres, mais c'est Dieu qui l'a fait de même. C'est pas une erreur. Puis je pense qu'on était enrichis même de ça, avec la bénédiction qui a été dans la vie de sa mère, puis qu'elle était avec nous autres. Voyez-vous de quoi qu'on parle? Il y a vraiment. Quand je vous dis que c'est pas humain, on pense pas de même. On méprise un dernier, on s'en vient là-dessus. Mais Dieu voit ça comme étant précieux. Et quand je vous dis, malheur à nous si on perd ça, si on se laisse voler. Notre nature égocentrique et ingrate elle-même nous vole cette disposition d'esprit tellement précieuse devant Dieu. Mais combien méprisé, ignoré. Mais pourtant, sans elle, on est esclave de nos passions, de nos convoitises, et on devient des monstres spirituels. Comme ça dit dans... Écoutez, dans Jacques. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, comme là, hein, avec nos bras, nos pieds, nos yeux? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Wow, il y a du stock dans ce que Jésus nous dit après-midi. Les scandales, c'est pour ceux qui ne sont pas contents de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Pensez à ça, c'est trois catégories, ça fait pas mal tout le tour de la question. Être, avoir, faire. En dehors de Dieu, il ne reste plus grand-chose. D'ailleurs, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, ça touche aux trois. C'est dans le monde, ces choses, ça va avec l'amour du monde. Et vous savez que les enfants de l'époque n'avaient pas le luxe de ne pas être contents dans l'état dans lequel ils étaient. Ils ne pouvaient pas chialer. Quand tu es un enfant, tu ne peux pas dire « je veux un jeu vidéo différent, puis je ne suis pas content. Puis... » Non, comme on dit au Québec, tu prenais ton trou. Vous savez quoi? Il y avait quelque chose qui était bien correct de même, d'une façon. Là. Je veux dire, je ne veux pas dire qu'on devrait maltraiter quelqu'un, mais je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est dans l'ordre normal des choses aussi. Tu es un enfant, c'est pas toi qui dirige. Puis nous, on est les enfants de Dieu, c'est pas nous qui dirigeons, c'est bien normal de même, c'est bien correct de même. Et la société dans laquelle on vit a tout changé. Tout changé, on parle des rôles, puis les hommes, les femmes, mais une chose aussi qui a changé, puis c'est tellement pas beau, il a changé nos enfants. Ils ont volé l'enfance à l'enfant. Un enfant qui est un enfant qui se laisse diriger en simplicité, est devenu un roi, puis est devenu un tyran, c'est laid. C'est laid, les enfants que le monde produit. C'est grave. Ils perdent ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, ce qui leur est propre, qui leur a été donné par Dieu. Wow! Troisième chose, et je termine avec ça. Non seulement... Il y a le virage de la foi enfantine, il y a le vol de la foi enfantine, mais on finit sur une note positive, la valeur de la foi enfantine. Regardez au verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que l'orange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de mépriser. » Ça, c'est la valeur qui vient du fait que Jésus est venu pour les sauver. Verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. » Pourquoi mépriser ce que Dieu valorise? Et parce que Jésus a payé le prix de sa vie, de son sang même, on ne devrait jamais mépriser aucun être humain, aucune personne. Parce que Christ est mort pour cette personne-là. Et Jésus lui-même donne l'illustration de ça. J'aime bien le verset... les versets 12 à 13. Que vous ensemble, ben, les brebis perdues. Il dit, t'en as 100, il y en a une que tu perds. Puis à cause qu'elle a de la valeur, tu laisses les 99 autres. Puis tu vas la chercher, puis quand tu la trouves, t'es content parce que t'as encore 99, mais parce qu'elle, elle a de la valeur, tu te réjouis comme si t'en avais trouvé tellement plus. Pourquoi? C'est à cause de la valeur. C'est ça le point. Jésus veut vous montrer la valeur d'une personne, le prix d'une âme. Et pourquoi? Parce que le prix du sang, c'est ça qui donne la valeur. Alors regardez ce que ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et ça dit aussi, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et Jésus nous donne l'application inspirée. Lui-même nous donne l'application de l'illustration qu'il a donnée avec les brebis. Il dit de même, verset 14, « Ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Et ici, le mot « perdre », c'est un mot commercial qui était utilisé à l'époque pour montrer l'acquisition de quelque chose. OK? Et... ça souligne la valeur rédemptrice de ce qui est ainsi racheté. Okay? Tu as payé pour le racheter pour pas qu'il se perde. Pour pas que ça soit perdu. C'est ça l'idée. Et donc, Jésus ici nous dit que la valeur de la foi enfantine est vraiment grande parce que ça l'a pris sa propre vie, son propre sang pour en payer le prix. C'est comme ça que c'est ça a de la valeur. On voit donc comment Dieu donne la valeur à la personne perdue que lui-même recherche. Et quand il l'a retrouvée, il s'en réjouit grandement. Et ça, mes amis, ça contraste avec notre cœur, notre perception spirituelle qui nous fait souvent tomber dans le piège du verset 10. On méprise. On fait mépriser, c'est pas faire un grand cas d'eux. C'est le contraire de donner de la valeur. C'est donner peu de valeur. c'est, ou pas donner de valeur du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas la personne au travail, le voisin, puis tout ça qui nous dérange à la lumière du sacrifice de Christ. Christ est mort pour cette personne-là. Christ, oui, elle nous dérange, mais Christ est venu pour qu'elle soit rachetée, qu'elle soit libérée de ce péché-là qui nous est... On est trop égocentrique à penser juste à nous, puis on ne pense pas à la valeur de l'âme de cette personne-là. Ça change toute la perspective. Un docteur de la loi, un érudit, un excellent prédicateur, un théologien renommé peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais avoir le cœur éloigné de Dieu, n'est-ce pas? Ce peuple m'honore des lèvres, il disait toutes les bonnes affaires, avait toutes les littéralement, les bons, ben littéralement, c'est de l'hébreu, là, il n'y avait pas des T puis des I, là, mais il y avait les bonnes bosses et bons T, puis les bons I, les bons iota à bonne place, là, OK? Mais, il y avait tout ça, mais son cœur était loin. Versus les personnes vers qui Jésus est allé. Publicain, Jean de mauvaise vie, Marie de Magdala, Pierre qui avait tout le temps le pied dans la bouche.
Oh.
Des personnes simples que Dieu aime utiliser. C'est ça l'idée. Plus la personne est simple puis dépouillée, plus Dieu y est grand. C'est ça le but de Dieu. Pensez à la petite fille avec Naaman. Petite fille, rien du tout, que donc personne ne faisait un cas. Puis lui, c'était un gros chef militaire là, d'une grosse nation épeurante pour Israël. Là. Puis c'est elle qui a amené la solution. Ce lépreux qui était rendu, tu sais, c'est un type du péché en plus. Ça n'allait pas bien pour Naaman. Mais Dieu voulait qu'il écoute la voix d'une petite fille de même. Puis après ça, qu'il écoute la voix d'un prophète qui dit de faire une affaire qui avait donc pas de bon sens. Dieu le dépouillait complètement de toute sa confiance, de son orgueil, puis tout ça, puis il voulait qu'il ait une foi enfantine. Simplement faire ce que Dieu dit, pas de rouspétage. Il y a quelque chose de fort là-dedans. J'imagine Jésus à 12 ans dans le temple. Pas comment que les gens... Imaginez-vous, là! 12 ans, là! Qui a 12 ans ici?
Le petit
ben oui, c'est vrai. Imaginez-vous Aurélie, là, qui s'assoit, là, puis commence à dire, alors, selon Ézéchiel, puis là, elle nous ouvre les Écritures, puis elle montre Christ. Dans... On capoterait bien raide. Mais... Les autres n'étaient pas tant émerveillés, ils disaient, oh, un enfant qui nous enseigne, nous, les docteurs de la loi, c'était choquant, là. Mais Dieu aimait utiliser. Tu sais, c'est la seule chose qu'on a de Jésus dans son enfance, mais regardez comment ça donne de la valeur à cette foi enfantine. Voyez-vous comment Dieu aime prendre les choses méprisées, viles, de ce monde pour confondre les sages. Les apôtres, on en parle souvent, tu sais, versus un leadership spirituel qui remontait à des années, là, puis qu'il y en avait en dessous de la ceinture aux autres, là, tu sais, hey, là, je veux dire, ils pouvaient vraiment se péter les bretelles. Dieu les a complètement confondus. Ils ont montré leur folie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ou des enfants, avaient une compréhension des choses que nous, on ne comprend plus. Comme maintenant, on se complique tellement la vie. Eux autres avaient encore de l'émerveillement, de l'admiration, de l'écoute. Chose que nous, on perd facilement. Et Dieu a toujours aimé agir ainsi parce que c'est comme ça qu'il est glorifié. Ce matin, ça a été lu, mais en fait, non, ma femme l'avait appris par cœur. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et glorifié et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tout ce qu'on a de bon, là, hey, c'est bon, là, sagesse, justice, sanctification, rédemption, il n'y a rien de ça qui vient de nous, c'est ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ, pour que personne de nous se vante. On a ça en lui. Gardons-nous de mépriser les gens qu'on aurait tendance à mépriser. Souvent, ça va être nos meilleurs enseignants. Les gens qu'on aurait le moins eu tendance à écouter. Si on prend le temps de voir que Dieu peut être dans une petite personne de même, dans une personne peut-être tannante aussi de même. Puis là, je suis pas en train de dire que les enfants ont une sagesse. Mais des fois, ils vont dire une affaire que peut-être que nous, on a oublié. Peut-être que les autres vont s'émerveiller. Peut-être qu'ils vont admirer quelque chose de Dieu. Peut-être qu'il va y avoir une écoute que nous, on a besoin de retrouver. Je termine avec le verset 15. Et là, on devance, parce que c'est dans notre texte du prochain message, mais je veux montrer qu'il y a un lien. Parce que vous connaissez le passage, on ne va pas le lire au complet, mais juste au verset 15, ça dit « Si ton frère a péché, va, reprends-le, toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Puis là, on a le passage un peu pour la discipline de l'Église. Okay? Trop souvent, justement, puis même, on l'appelle le même, le passage de la discipline de l'Église. Je veux juste amener le point suivant, parce qu'on va considérer ça plus en détail la semaine prochaine, mais souligner ici qu'il y a un lien avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Le but de Dieu avec la discipline, c'est de retrouver ce qui est perdu. C'est pas de donner une leçon puis mettre ça égal, c'est de retrouver ce qui est perdu, c'est de restaurer. Et n'est-ce pas aussi le but de Dieu avec nos vies, qu'il veut restaurer cette disposition? Pensez au moment, quand on est sauvé, il y a quelque chose de tellement simple. On vient comme un petit enfant à Dieu qui a rien, puis Christ est tout. Ça, c'est le premier amour. On ne devrait jamais perdre ça. Puis on ne devrait jamais mépriser ceux qu'on voit qui ont encore ça. On devrait dire « Wow! Je vais aller y parler. Je veux voir. Je veux passer du temps avec cette personne-là parce qu'il y a quelque chose de précieux que cette personne-là a que moi, malheureusement, j'ai perdu au cours des années. » Et donc, Dieu veut retrouver, veut restaurer. Et l'idée ici, quand ça dit « Va, reprends-le », tu as gagné ton frère. Tu l'as gagné à Jésus-Christ. Tu l'as gagné à son premier amour. Tu l'as gagné à sa place où est-ce qu'il devrait être dès le début. Donc, à la lumière de ce qu'on a vu dans le message, ça veut dire le gagner à cette disposition, cet état d'être de foi simple et oui, enfantine, qui est d'un grand prix devant Dieu. Une valeur inestimable devant notre Dieu. Je termine avec une image de la vie d'un homme. Si je donne... Bon, Kevin connaît toutes ces affaires-là, mais si je dis le nom Charles Templeton, peut-être Camille, connaissez-vous Charles Templeton? Charles Templeton est un évangéliste qui était associé aux campagnes évangélistiques de Billy Graham dans les années 40-50. Donc, c'est pas d'hier. Mais il a commencé très bien, il faisait des campagnes, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait dans les détails avec M. Billy Graham dans les campagnes qu'il faisait, mais il était avec lui. Puis à un moment donné, il s'est mis à avoir des doutes. Des doutes qui ont fini par envahir et inonder son cœur au point où il est devenu agnostique. C'est-à-dire agnostique, je reconnais qu'il y a un Dieu, c'est pas comme un athée, mais tu sais, je peux pas vraiment croire en lui, puis en tout cas, on va pas commencer à vous donner la définition d'un agnostique, là, mais... Il est devenu agnostique. Finalement, il a complètement laissé la foi. Autrement dit, il a fléchi, il a tombé sous la pression du scandale de l'opprobre de Christ. Et lorsque Lee Strobel, qui est un journaliste très sceptique, mais qui finalement a abdiqué puis a donné sa vie à Christ, okay, lorsqu'il l'a interviewé vers la fin de sa vie, donc M. Templeton est plus vieux, là, donc le jeune a interviewé le plus vieux, M. Strobel a interviewé M. Templeton. C'est des années après tout ça, puis M. Templeton parlait de sa foi en Jésus-Christ qu'il avait à l'époque comme d'un trésor précieux qu'il avait perdu puis qu'il aurait donc aimé retrouver. Mais la vérité, c'est qu'il avait abandonné. Puis je ne sais pas pourquoi Dieu connaît les cœurs, mais il l'a jamais, en tout cas, d'après ce que je sais, il ne l'a jamais retrouvé. Notre texte, c'est à la fois un avertissement et un antidote à tomber dans ce piège pernicieux et dangereux. C'est-à-dire que ce que Charles Templeton a perdu, c'est ce que Jésus nous parle ici, qui est tellement d'une grande valeur. Amen. Cette foi enfantine. M. Templeton est un homme intelligent, il avait des études, puis c'est sûr, mais il a perdu ce qu'il y avait de plus précieux. Puis après, il aurait donc voulu le retrouver. C'est quoi, il aurait pu aussi, là, je ne dis pas qu'il était plus sauvable. Je ne sais pas pourquoi, finalement, mais peut-être qu'il était trop pris par les doutes. Mais pour vous dire, il y a quelque chose de vraiment solennel dans ce qu'on a parlé après-midi. Que Dieu puisse sonder nos cœurs et garder nos cœurs précieusement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Merci Seigneur qu'on a pu prendre ce temps à tes pieds. Vraiment comme si on avait été un petit bout de temps avec toi pendant le temps que tu étais sur la terre. Merci que ta parole inspirée est tellement vivante. On t'a entendu parler sur ce petit enfant que tu as mis au milieu des disciples. duquel on a appris beaucoup, comme eux autres ont dû en apprendre aussi. Merci que tu nous enseignes, Seigneur, des choses qu'on ne voit même pas, des choses qu'on a même tendance à mépriser. Merci que tu nous enseignes à valoriser ce que toi tu valorises et que tu nous reprends sur le fait que des fois on méprise même ces choses que tu valorises. Merci, Seigneur, d'être si bon, patient envers nous. Que ceci nous serve de leçon, qu'on apprenne, oui, par des damnés, par des enfants, par des fois même des gens non sauvés, des gens qui peuvent des fois même nous déranger. Seigneur, tu peux nous enseigner n'importe comment comme tu veux, si seulement on a cette disposition comme un enfant. Seigneur, je te prie que tu puisses sonder nos cœurs et les disposer favorablement envers toi. Est-ce que tu nous révèles l'après-midi au nom de Jésus? Amen. Amen. Si vous voulez prier.